Et l'on commencera ce procès par le procès en appel du cardinal Barbarin, procès pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Il s'ouvre ce jeudi à Lyon. Quelle sera la stratégie de l'archevêque de Lyon? Réponse dans un instant. Nous ferons ensuite un point sur les municipales à Marseille. À droite, le parti Les Républicains a enfin sa candidate. Comment éviter la spéculation sur les ventes de logements en séparant le foncier du bâti? L'idée fait l'objet d'une proposition de loi et nous irons à Lille où l'expérience est déjà menée. Et puis direction le Brésil où des opposants à un barrage immense se battent désormais contre une mine d'or canadienne qui veut exploiter l'or à côté de ce barrage. Le cardinal Barbarin fera donc face de nouveau à la justice des hommes ce jeudi à Lyon. L'archevêque est jugé en appel pour non-dénonciation d'agressions sexuelles, des agressions commises par un prêtre de son diocèse, le père Prénat. Il avait été mis au courant depuis 2010. En première instance, en mars dernier, le cardinal Barbarin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Depuis, il s'est retiré de la vie du diocèse, Mathilde Imberti.
Le cardinal Barbarin s'est effectivement placé en retrait. Il vit toujours à Lyon, dans un appartement du diocèse, mais ne célèbre plus de messe, hormis en privé. Et s'il a été aperçu lors de célébrations, c'est qu'elles avaient lieu dans d'autres diocèses. C'est un administrateur nommé par le pape, Michel Dubost, qui assure l'intérim. L'évolution au sein de l'épiscopat français de Philippe Barbarin a été stoppée net. Et quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire, sa démission se profile. Un éventuel pourvoi en cassation reporterait pourtant encore de plusieurs mois ce retrait définitif. Or, ses avocats sont déterminés à aller au bout, car il se fonde sur une question de droit pour plaider la relaxe. Maître Jean-Félix Luciani.
Il n'a jamais su les choses avec suffisamment de précision pendant longtemps pour que ça puisse mériter au sens juridique du terme de dénonciation. Ensuite, parce que lorsqu'il le sait par quelqu'un qui a un âge suffisant pour déposer plainte lui-même et ce quelqu'un lui dit en plus que les faits le concernant sont prescrits. Enfin, parce qu'il n'y a aucune intention, aucune volonté d'entraver l'action de la justice. Je maintiens ici qu'il n'y a pas d'infraction pénale reprochable à Philippe Barbarin.
Les victimes campent aussi sur leur position et attendent une condamnation de l'archevêque de Lyon avant de témoigner au procès de leur agresseur, le père Prénat, à l'origine de toute cette affaire et qui sera jugé, lui, en janvier prochain.
Les victimes, justement, elles sont accompagnées par de nombreux paroissiens, des paroissiens en quête d'un renouveau au sein de l'Église catholique. Vous en avez rencontré, Mathilde ?
Mère de famille lyonnaise, déboussolée devant les affaires de pédophilie, elle a décidé de s'engager dans le collectif Que la lumière soit, avec un double enjeu, écouter les victimes et sensibiliser tous les croyants.
Je m'interroge sur ce silence de l'Église et on se demande pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose plus tôt et pourquoi les actes sont quand même mettent du temps à venir.
Le chemin est long, ajoute son mari, membre du même collectif à Lyon, et ce sont les victimes qui en souffrent, souligne ce fidèle.
Malheureusement pour les victimes, le changement va être long, probablement. C'est-à-dire que l'Église, elle est ce qu'elle est, elle a 2000 ans, et donc elle ne va pas se réformer comme ça en claquant des doigts. Mais maintenant, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et qu'on est sur le bon chemin, qu'il n'y aura plus d'omerta.
Qu'attendent ces catholiques du procès en appel à Lyon, de l'apaisement et que justice soit faite pour les victimes, quitte à condamner l'archevêque de Lyon, appuie cette jeune femme étudiante très critique envers l'institution.
Je ne suis pas du tout heureuse de ce qui se passe pour lui personnellement, mais il est temps que ceux qui sont responsables soient mis en face de ce qu'ils ont fait et que la société civile vienne leur dire « ce n'est plus possible de gérer votre église comme une institution à part qui n'a pas à répondre de crimes parce que ça reste caché ».
Des catholiques qui ont en commun de vouloir affirmer leur place car l'église c'est son peuple et pas sa hiérarchie.
C'était Mathilde Imberti à Lyon pour France Culture. Plus de 16 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, le tueur en série Michel Fourniret est suspecté. Suspecté d'enlèvement et de séquestration suivi de mort. Il est mis en examen depuis hier. Son ex-femme Monique Olivier est en fait revenue sur son alibi ce 9 janvier 2003. Au chapitre judiciaire toujours, le Front National, devenu Rassemblement National, est toujours soupçonné d'avoir caché plusieurs escroqueries au préjudice de l'État pour financer le parti. C'est l'affaire des kits de campagne des législatives de 2012. Eh bien, le parquet de Paris a requis hier à son encontre une lourde amende de 500 000 euros. 2 ans de prison ferme également contre Frédéric Chatillon, un proche conseiller de Marine Le Pen. Ils ont fini par trancher. Les cadres du parti Les Républicains misent finalement sur Martine Vassal pour briguer la mairie de Marseille à 27 voix contre 11. L'actuelle présidente de la métropole briguait l'investiture, tout comme le sénateur Bruno Gilles. Deux personnalités, deux visions différentes. Mais à la fin et à 4 mois des municipales, c'est donc la protégée de Jean-Claude Gaudin qui l'emporte, Rosalie Lafarge.
Le soutien plein et entier de l'emblématique maire de Marseille, c'est elle qui l'a. Et cela a nécessairement compté dans le choix de la commission d'investiture. C'est avec Martine Vassal, selon Jean-Claude Gaudin, que la droite peut récupérer les électeurs partis un temps chez Emmanuel Macron. C'est avec elle, selon de nombreux élus de la droite, que Marseille peut rester entre les mains des LR. Parce qu'il n'est pas question pour le parti de céder son bastion. La deuxième ville de France est à droite depuis 25 ans, depuis finalement l'arrivée de Jean-Claude Gaudin à l'hôtel de ville. Et les LR, encore très marqués par leur déroute aux européennes, n'ont pas l'intention d'en rendre les clés. Mais si être l'héritière du maire sortant peut servir les intérêts de Martine Vassal, cela peut aussi lui être fatal. Le bilan de la municipalité actuelle est plus que contesté, notamment après le drame de la rue d'Aubagne. Et puis tout n'est pas encore réglé non plus. La commission d'investiture a tranché pour la ville de Marseille hier soir, pas pour la métropole. Et là encore, cela devrait donner lieu à de longues discussions.
Après le blocage du périphérique parisien hier par les agriculteurs, ce sont aujourd'hui les routiers qui se mobilisent. Pour dénoncer la hausse de la fiscalité sur le gasoil, ils ont décidé d'installer des barrages filtrants dans le nord, près de la frontière belge. Des routiers qui ont déjà prévu de participer à la grève du 5 décembre prochain, tout comme les cheminots. À une semaine de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la SNCF anticipe d'ailleurs. La compagnie ferroviaire bloque la vente des billets du 5 au 8 décembre. Une contestation naît donc de la réforme des retraites qui est en préparation. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit ouvert à un compromis sur la date d'entrée en vigueur de cette réforme. Il présentera les grandes lignes du projet de loi dans une quinzaine de jours, soit après la journée de mobilisation du 5 décembre. Alors, une réforme est-elle nécessaire ? Oui, a répondu hier l'OCDE, l'Organisation internationale de coopération et développement économique. Oui, dit-elle, parce que la population vieillit dans son ensemble et parce que les emplois sont de plus en plus atypiques, Marie Viennot.
Ce que l'OCDE nomme les emplois atypiques, ce sont les emplois à temps partiel et les emplois non salariés, type auto-entrepreneur ou indépendant. Les femmes sont trois fois plus nombreuses que les hommes à occuper ce type d'emploi. Et dans son rapport, l'OCDE appelle donc les pouvoirs publics à mettre en place des régimes de retraite mieux harmonisés pour éviter les inégalités de couverture, de cotisation et donc de sommes touchées à la retraite. Travailleurs indépendants et salariés devraient connaître le même traitement, estime l'OCDE. Or, des pays comme la France, l'Italie ou les Pays-Bas prévoient des taux de cotisation différents selon les statuts. L'Allemagne même ne prévoit aucun système de cotisation obligatoire pour les travailleurs atypiques. Avec son âge moyen de départ à la retraite, je cite l'OCDE, particulièrement bas, 60,8 années, et ses régimes spéciaux, la France est pointée du doigt dans ce rapport. Et à contrario, le projet du gouvernement sur la retraite à points est encouragé, notamment car il permet d'ajuster les paramètres du système de retraite à la démographie. Ces mécanismes d'ajustement automatique, autrement dit sans besoin de réforme, existent dans la moitié des pays de l'OCDE, relève l'organisation. Des pays qui, pour la plupart, à part la France, la Belgique, la Corée et les pays nordiques, ont principalement adopté des systèmes qui passent par des fonds de pension, c'est-à-dire le système de retraite par capitalisation et non redistribution, comme c'est le cas en France, entre actifs et retraités.
C'était Marie Viennot. Une opération d'évacuation d'un camp de migrants est en cours. En ce moment, au nord de Paris, porte d'Aubervilliers, près de 300 migrants sont actuellement sur place. Arrêtons-nous à présent sur une proposition de loi étudiée ce jeudi à l'Assemblée nationale à propos du mal-logement. Un texte déposé par le Modem qui vise à dissocier le foncier du bâti lors d'un achat immobilier pour éviter la spéculation immobilière. Car ce qui est cher, ce ne sont pas les murs, mais le terrain, le foncier. Selon cette proposition de loi, l'acheteur pourrait acheter un bâti mais louer le sol à un organisme foncier solidaire. Cela existe depuis 2015 à Lille, comme l'a constaté Catherine Pétillon. Voici son reportage.
Ici, c'est une courpatte qui vient de créer. Les deux fosses que vous voyez, c'est des fosses où on va implanter des arbres.
En plein centre de Lille, les travaux s'achèvent dans le bâtiment en briques de l'ancienne faculté de pharmacie. Un programme immobilier avec une galerie d'art, un hôtel, des logements, dont une quinzaine d'appartements relevant d'un nouveau dispositif d'accession à la propriété.
Ils sont vendus 2110 euros du mètre TTC. En accession pleine, les logements sont vendus à plus de 5000 euros le mètre carré.
Les acheteurs accèdent à un logement bien moins cher. En contrepartie, ils payent une redevance pour le terrain à l'organisme foncier solidaire. Ici, 100 euros par mois pour un 100 mètres carrés. Grâce à ce dispositif, la ville espère permettre à des familles de rester en centre-ville. C'est le cas d'Elisabeth Aubert et son mari. Ils deviennent propriétaires pour la première fois.
On achète un T5 avec une petite terrasse dans un quartier qui sinon n'aurait pas été accessible pour nous, très clairement. Voilà. Alors que c'est un quartier où mon compagnon a grandi, ses parents, lui, eux, ont pu acheter une maison de, je crois, 250 m² dans le quartier. Et aujourd'hui, pour nous, ça serait totalement impossible. Derrière ce projet, évidemment, il y a tout un ensemble de points très positifs sur le plan perso, individuel, mais on est aussi séduit par la dimension politique de ce dispositif. C'est aussi quelque chose d'innovant, qui est quand même un outil de résistance à un système économique de plus en plus spéculatif.
Car s'ils revendent, ils devront le faire au même prix, mais aussi aux mêmes conditions, à savoir le niveau de ressources des acheteurs. Par exemple, moins de 59 000 euros pour un couple avec deux enfants. Audrey Linkenheld, adjointe à la maire de Lille, en charge de la mixité sociale, se réjouit de multiplication.
Ce dispositif, il est intéressant pour les métropoles régionales ou même pour la métropole parisienne, mais aussi pour des petites villes, des centres-bourgs où il y a une pression forte parce qu'elles sont proches du littoral, parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, parce que de toute façon le marché de la location finalement existe à peine et qu'on n'a pas d'autre choix que d'acheter dans ces territoires-là. Ces collectivités-là s'intéressent aussi à ce dispositif.
Aujourd'hui, une vingtaine d'organismes fonciers solidaires ont déjà été créés en France. Autant sont en cours de création.
Mais il faut préciser que cette démarche inquiète tout de même les concepteurs du dispositif social. Attention à en préserver la gestion non lucrative et les critères sociaux. Anne-Catherine Ledeuf, directrice générale déléguée du cabinet Espacity, s'en explique.
Séparer le foncier et le bâti ne permet pas de garantir le caractère plus abordable des logements si les prix ne sont pas encadrés. Le problème qu'on a dans la proposition de loi, c'est que l'encadrement de ces prix est adossé à des observatoires, mais des observatoires qui doivent prendre référence sur des marchés classiques et qui donc du coup ne prévoient pas du tout des prix de référence plus encadrés et plus bas sur ces principes de démembrement. Et donc c'est là où on peut avoir un paradoxe entre l'objet de la lettre de mission de Monsieur Laglaise qui a pour vocation de maîtriser les coûts du foncier et les effets de ce modèle qui pourraient les renchérir.
C'était Anne-Catherine Ledeuf, directrice générale déléguée du cabinet Espacité, un dossier réalisé par Catherine Pétillon. La Chine menace Washington de représailles après la promulgation par Donald Trump d'une loi concernant Hong Kong. Une loi qui soutient le camp pro-démocratie. Elle prévoit notamment d'interdire la vente à la police hongkongaise de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et autres équipements destinés à réprimer les manifestants. Pékin a convoqué tôt ce matin l'ambassadeur américain. Les manifestations se poursuivent en Irak contre le pouvoir en place et contre la corruption dans le pays. La répression continue également. Ce matin, au moins 8 personnes ont été tuées dans le sud du pays lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. L'armée irakienne annonce d'ailleurs avoir dépêché des commandants militaires auprès des gouverneurs régionaux pour, je cite, « restaurer l'ordre ». En Colombie, c'est un mouvement de grève qui a lieu depuis 7 jours maintenant. Les manifestants protestent contre la gestion du président de droite, Iván Duque, au pouvoir depuis à peine plus de 15 mois. Hier encore, des milliers de Colombiens étaient dans les rues du pays. Partons maintenant au Brésil, où le 4e plus grand barrage au monde a été inauguré hier par le président Jair Bolsonaro. Il s'agit du barrage de Belo Monte. Désormais, 18 turbines devraient tourner s'il n'y a pas assez d'eau sur place. Ce n'était pas le cas ces 3 dernières années. Un énorme gâchis pour ses opposants, qui sont nombreux à Anvinha.
Le président Jair Bolsonaro n'a pas dit un mot hier en coupant le cordon du barrage de Belo Monte. Comme si on ne savait que dire devant cette énorme structure qui est un gouffre financier pour le Brésil estimé à 10 milliards d'euros. Le monstre, comme l'appellent les habitants de la ville d'Altamira où il se trouve, a déjà de nombreux problèmes. Il a laissé derrière lui une désolation écologique et sociale, explique Felício Pontes, procureur à Brasilia et responsable de ce dossier depuis 10 ans.
Belo Monte continue à être.
Belmonte continue à être un monument de gaspillage et de folie parce que BM n'arrive même pas à produire 40% de l'électricité qui avait été promise. Et les dégâts socio-écologiques sont terribles.
Le fleuve Xingu qui fournit l'eau du barrage a un débit qui se réduit considérablement en saison sèche. Et comme les scientifiques l'avaient prévu, les saisons sèches sont de plus en plus importantes et longues en Amazonie. Les sociologues avaient aussi prévu des impacts sur la population d'Altamira, impacts qui se sont bien confirmé.
La situation dans la ville est pire qu'avant Belo Monte. Jusqu'en 2017, la ville était même la plus violente du Brésil avec une qualité de vie très mauvaise. Les pêcheurs et les Indiens sont tous très touchés par ce barrage.
Aujourd'hui, c'est une mine canadienne, Belo Sun, qui demande un permis pour exploiter l'or grâce à l'énergie de Belo Monte. Une mine à ciel ouvert qui se présente comme la plus grande au monde.
C'était Anne Vigna, notre correspondante au Brésil. De la pluie sur toute la France métropolitaine, sauf en bord de Méditerranée. Voici le programme pour ce jeudi. Le Pas-de-Calais est en vigilance orange pour risque de crue. Ce matin, comptez 7 degrés à Clermont-Ferrand, 9 degrés à Besançon, 10 à Lille et Lyon, 11 degrés à Paris et Bordeaux et 14 degrés dans la matinée à Nice.